Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute!
Bonjour Fanny.
Bonjour.
Alors, on est ravis de t'accueillir. Fanny, il y a plus de 10 ans, tu cofondes avec Martin Durigneux l'association lyonnaise Anciela, qui accompagne donc les personnes qui souhaitent s'engager en faveur d'une société écologique et solidaire. Au sein de cette association qui porte diverses activités, un magazine, un guide qui recense ses initiatives en région, des formations, des accompagnements gratuits, enfin, tout un tas d'actions. Toi, tu coordonnes en particulier la pépinière d'initiatives où des porteurs et des porteuses de projets viennent faire leurs premiers pas. Et finalement, toi aussi, c'est un peu tes premiers pas en tant qu'accompagnatrice. Donc Hélène et moi, on est ravis de t'accueillir sur ce podcast et de parler d'Anciela et tes autres activités, notamment parce qu'on a pu éprouver nous-mêmes cet accompagnement pour des projets pro ou perso. Et voilà, on est vraiment ravis aujourd'hui d'échanger tout ça avec toi. En 2019, donc il y a maintenant 4 ans, une partie de l'équipe d'Anciela, donc toi et d'autres, vous créez l'Institut Transition, qui est donc une école là qui outille les professionnels en conversion ou en évolution de vie pro vers des métiers à impact, écologique ou solidaire. Donc voilà, on va bien sûr te laisser te présenter un peu plus en détail les travaux de l'Institut et ton travail d'accompagnatrice. Mais avant ça, on avait quelques questions sur toi. À commencer par, est-ce qu'il y a eu dans ton parcours, dans ta vie, un déclencheur, un déclic qui t'a fait prendre conscience des enjeux écologiques, des enjeux de solidarité?
C'est une grande question. En fait, je ne suis pas sûre que je puisse identifier un déclic qui est à l'origine de mon engagement. Parce que, aussi loin que je m'en souvienne, dès l'enfance ou l'adolescence, j'ai toujours eu une grande sensibilité sur les questions de justice sociale. J'étais très touchée et indignée par les processus d'exclusion, par la pauvreté, par... Bah, toutes ces personnes qui pouvaient être mises aux marges de la société. Et j'avais vraiment très tôt cette envie d'agir pour faire en sorte que chaque personne ait une place au sein de la société et puisse vivre dignement. Donc, dans un premier temps, pour moi, vivre dignement, c'était principalement avoir un toit sur la tête, être nourrie, pouvoir se vêtir. Enfin, bien sûr, ça a une importance fondamentale. Mais petit à petit, voilà, j'ai réfléchi à d'autres choses qui me semblent nécessaires pour ça. Et donc, j'attendais de pouvoir être suffisamment grande pour trouver des espaces où j'allais pouvoir faire bouger les lignes.
Et du coup, aujourd'hui, ton rôle et ton métier, c'est plus autour de l'accompagnement. Et du coup, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que c'est pour toi d'accompagner les personnes qui sont en transition professionnelle et personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Ben pour moi, accompagner ces personnes, c'est déjà gérer les accueillir et prendre vraiment au sérieux cette petite voix intérieure qui les amène à se dire qu'elles ont envie de changer de vie, qu'elles ont envie de créer des alternatives dont on a besoin actuellement dans notre société. Je pense que cet accueil et cette écoute, c'est quelque chose qui est assez fondamental parce que c'est ce qui va permettre à celles et à ceux qu'on rencontre de prendre elles-mêmes au sérieux ce qui les met en mouvement. Et puis bien sûr, après, l'idée, c'est de les aider à cheminer, que ce soit en les questionnant, en les aidant à aller plus loin dans leur réflexion, en leur transmettant des conseils, des retours d'expérience, des outils qui leur permettront soit de lancer une nouvelle initiative, soit de trouver un métier ou des missions professionnelles qui correspondront davantage à leurs aspirations. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir vivre ces missions d'accompagnatrice parce qu'on est toujours les témoins de ce moment où les personnes s'autorise à être vraiment vivante et à être vraiment elle-même. Et je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'énergie et d'espoir dans la société.
Est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu as voulu aller vers ce métier, en fait, d'accompagnatrice? C'est vraiment pour voir un petit peu l'éclosion des personnes et leur envol et de voir la voie que ça peut apporter? Enfin, ou est-ce que tu as eu, qu'est-ce qui t'a donné l'élan, finalement, de t'orienter, toi, vers ce type de secteur d'activité?
En fait, c'est assez drôle parce que je ne crois pas que j'ai choisi à la base de devenir accompagnatrice. En fait, quand j'ai fait mes études, j'ai rencontré Martin, qui est le président d'Anciela. Et on a, avec d'autres, et notamment Justine, tâtonné pour essayer de trouver à la fois ce qui allait être la raison d'être de l'association, mais aussi ses modes d'action. Et on a testé beaucoup de choses. On a animé des ateliers participatifs. On a lancé des sites internet pour permettre aux personnes d'échanger leurs idées d'action en faveur de la transition écologique et solidaire. Mais finalement, pendant toute une première période, on avait du mal à trouver notre utilité sociale. C'était pas mal ce qu'on faisait, mais on sentait que c'était pas suffisant et surtout, on sentait que ça correspondait pas à qui on était nous-mêmes. Et c'est vraiment au moment où on a lancé la pépinière d'initiative pour proposer cet accompagnement à des personnes qui avaient envie de lancer des initiatives de transition, qu'on a vraiment senti pour la première fois qu'on répondait à un besoin et qu'on était à notre place. Donc, je ne peux pas dire que j'ai choisi de m'orienter vers des missions d'accompagnement. C'est plutôt le résultat d'un cheminement où à Anciela, on a testé plein de choses. À un moment donné, on s'est dit peut-être que si les personnes ne se lancent pas, c'est parce qu'il leur manque un accompagnement. Et c'est plutôt que quand j'ai commencé à vivre ces missions d'accompagnement, je me suis dit, oui, ça, c'est vraiment moi. Mais c'est quelque chose que je me suis dit a posteriori et que, par contre, maintenant, j'ai bien en tête. Et donc, j'ai vraiment envie de continuer à creuser ce qui permet aux personnes d'aller de l'avant et de se rapprocher de qui elles sont vraiment.
Et c'est intéressant ce que tu dis là parce que tu parles d'accompagnement et du chemin parcouru pour en arriver là. Mais... toi, tu as co-créé Anciela, donc avec Martin et Justine, entre autres, il y a plus de 10 ans. Alors, c'est pas pour te mettre un coup de vieux, hein, c'est plutôt pour souligner que tu étais jeune quand tu as créé Anciela. Comment est-ce qu'on arrive à créer une asso comme Anciela si jeune? Alors, accompagné, pas accompagné, tu nous le diras. Et puis aussi, comment on tient dans le temps, en fait, comment on grandit avec une asso qu'on a créée jeune?
C'est vrai que souvent, quand je parle de mon expérience à Anciela, je dis que je suis tombée à Anciela. Enfin, c'est-à-dire, j'ai fait une première réunion avec Martin notamment, sans me dire du tout que plus de 10 ans après, j'y serai encore. Je pense que ce qui fait qu'on s'est retrouvés à ce moment-là, alors avec Martin, avec Justine et d'autres, c'était vraiment cette envie de contribuer en faveur de la transition écologique et solidaire. Et ce qui nous rassemblait aussi, c'était une grande confiance en la capacité de chaque personne à apporter à la société. Et au-delà de cette confiance, on se disait que c'était absolument nécessaire que pour répondre aux crises que rencontrait notre civilisation, il y avait besoin de la créativité, de l'énergie, de la singularité de toutes les personnes qui voudraient bien se lancer. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et puis après... ça a été le début d'une aventure et je pense que si je suis toujours là aujourd'hui, c'est précisément parce que j'ai trouvé ma place, parce que j'ai trouvé la manière d'agir qui me correspond à travers ces missions d'accompagnement, ces missions de formation. Par ailleurs, j'ai la chance d'être très nourrie et portée par le collectif, que ce soit à Anciela ou au sein de l'Institut Transition, où je travaille au jour le jour avec des personnes qui me font grandir, qui me font réfléchir. Donc ça, c'est assez essentiel. Après, sur la question de est-ce que nous-mêmes, on a été accompagnés, pas vraiment. En tout cas, on ne l'a pas été en tant que porteur et porteuse d'initiative. On ne l'a pas été ensuite en tant que dirigeant, dirigeante, d'associations engagées en faveur de la transition parce que, je ne sais pas, ça ne s'est pas présenté parce qu'on n'a pas trouvé les structures ou les personnes à l'époque qui pouvaient nous proposer ça. Mais finalement, c'est quand même en puisant dans notre expérience, dans les besoins que nous, on avait pu identifier pour nous-mêmes, qu'on a pu construire la pépinière et qu'aujourd'hui, on continue à l'améliorer ou à penser l'Institut Transition.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que les besoins que vous avez eus, vous essayez d'y répondre à minima pour autrui et donc toutes les personnes qui frappent à la porte d'Anciela et puis de l'Institut maintenant. Est-ce que l'Institut, finalement, qui a été donc cofondé après Anciela, est-ce que c'est comment dire, une continuité? Est-ce que ça, l'idée c'est d'aller plus loin? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui, toi en tout cas, t'a motivé à créer cet institut et puis peut-être ton rôle aussi au sein de celui-ci?
C'est vrai que l'institut est vraiment né, on pourrait dire, dans le terreau d'Anciela. À Anciela, au moment où on a fondé l'Institut en 2019, nous permettait en fait d'être très confrontés, et je dirais de plus en plus confrontés, à tout un tas de personnes qui se disaient en quête de sens et d'utilité et qui avaient envie d'évoluer dans leur vie professionnelle. Et elles venaient nous voir à Anciela en nous disant qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour nous permettre d'avancer. Et jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas de réponse très concrète ou de dispositif d'accompagnement vraiment à mettre face à leurs besoins. Nous, ce qu'on pouvait leur dire, c'est qu'elles pouvaient s'engager bénévolement et qu'on pouvait les aider là-dessus, qu'elles pouvaient entreprendre et qu'on avait une pépinière pour ça. Mais finalement, on se rendait bien compte que c'était pas ça la demande. Leur demande, c'était beaucoup plus de voir comment les 40 heures de travail par semaine qu'elles pouvaient avoir dans leur vie salariée pouvaient être mis à disposition de structures associatives ou entrepreneuriales très engagées sur les questions d'écologie et de solidarité, pour ne pas avoir l'impression de vivre en dissonance entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et à ce moment-là, en 2019, on s'est dit, mais il faut aller plus loin. On s'est rassemblés, on était une dizaine de personnes au début, et on a commencé à réfléchir à ce premier programme d'accompagnement, Nouvelle Voie, qui est dédié aux personnes en évolution professionnelle. Donc un programme d'un an pour leur permettre de basculer vers un nouveau métier, des nouvelles missions, un nouveau monde aussi, en faisant le pari qu'elles pourront à la fois être dans un endroit où elles se sentiront bien et épanouies, mais où elles pourront contribuer au changement de société qu'on appelle de nos voeux. Et donc moi, dans tout ça, je dirais, j'ai un rôle de coordination pédagogique du programme Nouvelle Voie, et notamment de coordination de l'accompagnement qui est proposé aux apprenants et aux apprenantes. Et puis voilà, j'en accompagne en propre, et je propose aussi des formations sur les sujets qui sont les miens, donc notamment sur comment est-ce qu'on suscite des prises de conscience, on accompagne la mise en mouvement des personnes et on accompagne le changement.
Oui, en fait, c'est hyper complémentaire, et puis on voit bien la continuité. Nous, effectivement, Laetitia et moi, on est quand même convaincus que le travail, il est plus intéressant quand il est au service de la transition écologique et solidaire. Mais pour toi, enfin, toi, ton point de vue, ton regard là-dessus, pourquoi est-ce que le travail, finalement, c'est un levier important pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux qu'on connaît aujourd'hui?
Je reviendrai sur la question des aspirations des personnes, mais la première chose quand même, c'est que je dirais la raison d'être de l'économie et la raison d'être du travail en particulier, c'est quand même de répondre aux grands défis auxquels une société est confrontée. À une certaine époque, peut-être que l'enjeu, c'était par exemple de reconstruire des villes après 45. Aujourd'hui, pour nous, l'enjeu de l'économie et du travail, c'est de répondre aux problématiques d'écologie et de solidarité pour que on ait des solutions très pratiques qui permettent à notre société de changer. Donc ça c'est peut-être un premier élément de réponse. Le but de l'économie, c'est pas de créer du travail. Le but du travail, c'est de faire bouger la société. Enfin, c'est en tout cas ça, nous, qu'on porte beaucoup. Mmh. Ensuite, il y a vraiment ce qui se joue je dirais plutôt au niveau des personnes, enfin à l'intérieur des personnes, où globalement, ce qu'on voit bien, c'est que un certain nombre d'entre elles vivent un sentiment de dissonance ou de manque d'alignement très fort entre ce qui peut être porté dans leur sphère professionnelle et ce en quoi elles croient fondamentalement. Et donc, bon, voilà, c'est quelque chose qui est forcément pénible à vivre, mais c'est aussi un énorme gaspillage humain, puisque c'est des personnes qui ont des richesses, une énergie, des savoir-faire qui pourraient, encore une fois, contribuer à faire bouger les lignes là où on en a besoin. Et donc, notre idée, c'est à la fois de leur permettre d'avoir une place qui leur correspond, mais c'est surtout de leur permettre de faire émerger et grandir des solutions qui sont absolument cruciales aujourd'hui.
Oui, c'est hyper intéressant. Tu disais tout à l'heure, il y a donc, et encore maintenant, l'aspiration des personnes, la dissonance des fois qu'on peut avoir entre ces aspirations personnelles et puis le travail qu'on fait au quotidien, et cette mise en mouvement qui est importante pour agir et contribuer à la transition. Mais qu'est-ce qui met justement en mouvement les gens, selon toi, pour... il faut quand même l'enclencher, cette transition professionnelle, qui n'est pas forcément évidente. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait basculer un petit peu, de dire, tu vois, on fait ce premier pas, on y va, quoi. On va à l'institut ou ailleurs, mais on se forme, on opère cette transition parce que ce n'est pas évident à faire. Tu t'observes quoi, toi, sur les motivations et le passage à l'action des personnes et puis peut-être leurs freins, du coup, en comparaison?
Si on part du point de départ, vraiment, enfin, ce qui ressort dans le récit des personnes sur une première tranche de vie, enfin, avant leur évolution professionnelle, c'est qu'elles ont souvent le sentiment d'avoir été dans ce qu'elles appellent des parcours de non-choix. C'est-à-dire qu'elles ont fait des études, eu des premières expériences pro qui n'étaient pas mues par... je dirais un intérêt particulier, une passion, une envie de contribuer, mais qui était plutôt liée à leur facilité personnelle, à une pression sociale parfois à gagner une place. Et donc voilà, il y a une mécanique qui s'enclenche et donc il n'est pas facile de s'extraire. Ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qui vient perturber ce parcours de non-choix? Qu'est-ce qui vient ébranler cette mécanique? Moi, j'aime bien imaginer comme des petits grains de sable qui se mettent dans le rouage et qui vont faire que finalement, ça peut plus fonctionner comme ça. C'est vraiment une question qu'on s'est posée et on a essayé de mettre des mots sur ce qui allait... qui allait gêner cette mécanique. Et on a essayé de formaliser ça sous forme de quête. On a essayé de voir qu'est-ce qui manquait dans la vie professionnelle des personnes et qu'elles allaient aller chercher. Donc la première quête, c'est celle dont on parle beaucoup dans les médias, c'est la quête de sens. La quête de sens, ça correspond à la conscience de l'écart qui existe entre ces idéaux et la vie pro qu'on a. Et donc, on va chercher à se mettre en mouvement pour recréer une cohérence, recréer un alignement qui nous permettra de nous sentir mieux dans nos vies. Ça, c'était vraiment la première grande motivation. La deuxième motivation, c'est plutôt ce qu'on appelle, nous, la quête d'utilité. La quête d'utilité, c'est la conscience des personnes d'avoir... parfois des missions professionnelles qui n'ont soit pas d'utilité sociale, environnementale, soit qui sont carrément nuisibles pour la société, ce qui existe malheureusement. Et donc là, les personnes vont souhaiter évoluer professionnellement pour trouver un espace où non seulement elles sont utiles, mais où en plus elles ont une perception directe de leur impact. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose qui peut les mettre en mouvement. Peut-être une troisième grande motivation, c'est ce que nous on appelle la quête de lien, c'est l'aspiration des personnes à retrouver des espaces de vie professionnelle où elles se sentent en phase avec leurs collègues, avec leurs préoccupations, leur sensibilité, pour être nourries par ces relations du quotidien et pas se sentir complètement... à l'ouest au moment du repas, parce que finalement on se sent très très éloigné de ce qui est vécu par les autres. Voilà, ça peut être une autre motivation d'aller trouver des espaces dans lesquels on se sent plus, plus aligné. Voilà, c'est ces trois exemples de motivations récurrentes qui vont amener les personnes à trouver en elles l'énergie de se lancer. Et c'est vrai que c'est pas rien parce que souvent les personnes, elles savent bien ce qu'elles quittent, mais elles savent pas encore ce qu'elles vont trouver. Et c'est vraiment ça que nous, on essaye d'accompagner, c'est cet espace d'entre-deux où on est encore dans le flou, dans le brouillard, il va falloir trouver des premiers pas à passer pour que justement un horizon se précise et qu'on réussisse à se raccrocher à des endroits dans lesquels on se sentira mieux.
Oui, alors t'écoutant parler, j'ai l'image de, et ça fait penser du coup à l'accompagnement, mais j'ai vraiment l'image de quelqu'un, tu sais, qui tend la main vers l'autre pour justement l'accompagner et faire traverser la personne vers là où elle a envie d'aller. Et c'est vrai que cette période intermédiaire qui est pas simple quand tu quittes, c'est ce que tu quittes effectivement, mais tu sais pas ce que tu retrouves. C'est là où c'est important d'avoir des gens comme toi et ton équipe pour accompagner à tout ça. Nous, avec le podcast, on fait évidemment la part belle aux femmes qui travaillent différemment en faveur d'un monde qui serait plus juste et durable, et en tout cas qui se veut écoféministe. En tout cas, nous, c'est la position qu'on porte. On a constaté qu'il y avait un nouveau cours proposé à l'Institut sur la question de genre, avec notamment une approche écoféministe. Et du coup, on avait envie que tu nous en dises un peu plus sur ce cours et pourquoi est-ce que c'est important aussi de parler de genre quand on est en transition professionnelle. Donc voilà.
Ah oui, c'est vrai que depuis la fondation de Nouvelle Voix, on se disait que ce serait vraiment important d'avoir un cours sur le genre, mais on n'avait pas forcément trouvé qui pourrait le faire. Et chaque année, des apprenants et surtout des apprenantes nous interpellaient en nous disant mais on ne parle pas de féminisme, on ne parle pas d'écoféminisme à l'Institut alors qu'il y aurait matière. Et donc voilà, on s'est dit, bon, là, cette année, il faut se lancer. Et on a trouvé une intervenante en la personne de Mathilde Cortinovis, qui pourrait d'ailleurs être une très bonne personne interviewée, qui a fondé Équilibre Café, qui est élue aussi à la ville de Lyon et qui, par ailleurs, est passionnée par ces questions de genre. Et donc, on s'est dit que voilà, elle saurait bien les porter au sein de l'Institut. Alors après, sur le pourquoi, c'est vrai que, pour nous, la transition écologique et solidaire de la société, elle vient questionner de manière générale les rapports de domination et d'exploitation qui existent entre les êtres humains, et le reste du vivant. Et pour nous, quand on parle d'écoféminisme, c'est ça, c'est de se dire que dans une société patriarcale, il y a des rapports de domination qui existent à destination des femmes, mais aussi à destination de tout ce qui est vivant, et que voilà, on a une nécessité de sortir de ça pour penser des relations plus harmonieuses qui fondent la société de demain.
En baladant sur le site de l'Institut, j'ai vu que vous aviez réalisé des enquêtes, et notamment quelques chiffres qui m'ont sauté aux yeux. Vous montrez que donc 70% des personnes accompagnées, qui ont été accompagnées, sont des femmes, que l'âge moyen médian est de 36 ans. Moi, j'avais envie de te poser comme question, quels sont les constats pour toi, est-ce que c'est une tendance de fond, d'après toi, d'avoir de plus en plus de femmes qui s'emparent de ces questions-là?
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'entremêlent. Très, très concrètement, moi, j'ai l'impression d'être entourée quand même, d'évoluer dans des milieux très féminins, que ce soit au sein d'Anciela, au sein de l'Institut. Et quand je dis ça, c'est à la fois dans les équipes, mais aussi dans les personnes accompagnées. Tu disais à raison que on a 60% des apprenantes Nouvelle Voix, donc des personnes en évolution pro qui sont des femmes. Mais si on regarde les personnes accompagnées dans la pépinière, donc sur un volet entrepreneurial, les chiffres, ils sont autour de 65 à 70%. Donc c'est quand même ultra ultra massif. Donc moi, je fais deux hypothèses La première hypothèse, c'est que la surreprésentation des femmes est très liée aux questions qu'on traite sur ces questions de transition écologique et solidaire. On voit que bah, y a quand même beaucoup de femmes qui s'engagent. Je pense notamment quand on n'est pas sur des champs techniques. Enfin, finalement, on va regarder plutôt les innovations technologiques sur les questions d'économie circulaire. Là, c'est tout à fait autre chose. Mais on est quand même encore dans une répartition des intérêts, des tâches, des missions qui est extrêmement genrée. Et finalement, bah, la transition écologique, c'est quand même bah, un rapport au quotidien. C'est quand même... un rapport aux soins, c'est quand même un questionnement des relations qui, bah, en tout cas socialement, se raccroche plutôt aux femmes. Donc je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ait des espaces d'accompagnement, par ailleurs des espaces d'accompagnement sans sélection, et qu'il me semble que les femmes sont construites de manière à davantage faire appel à ce type de ressources, là où parfois les hommes se disent qu'ils peuvent y aller tout seuls avec peut-être moins de questions sur leur capacité ou leur légitimité. Donc je pense que ça vient quand même vraiment renforcer le processus. Et puis peut-être juste un dernier mot sur peut-être la tranche d'âge. Donc tu disais que la moyenne d'âge est autour de 35 ans. Enfin, c'est vrai que globalement, on a beaucoup de personnes qui ont entre 30 et 45 ans et je vois que l'expérience de la maternité joue quand même beaucoup chez les femmes qu'on accompagne, notamment en évolution pro. Ce qu'elles disent, c'est que bah, le moment de la grossesse et du congé maternité bah, leur permet de s'extraire déjà d'un quotidien professionnel et de prendre un recul qui parfois est salvateur, qui leur permet de venir questionner ce qu'elles vivaient jusque-là. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance, en fait, hein, de pouvoir le faire. Et par ailleurs, il y a ce moment de retour au travail son corollaire, le moment où on laisse son enfant à une crèche, une nounou, qui peut... accroître fortement le sentiment de dissonance des personnes. C'est-à-dire que si j'ai le sentiment que bah, mon travail n'a pas de sens, ça va être potentiellement beaucoup plus difficile de laisser mon bébé alors que je pourrais passer du temps avec lui. Et donc ça peut venir agir comme un révélateur ou ça peut vraiment accroître le besoin de changer pour se mettre davantage en cohérence dans sa vie pro.
Ouais, complètement. Là, aujourd'hui, l'Institut, vous avez eu 3 promotions.
Oui.
Donc, c'est déjà, voilà, ça fait déjà quelques temps. Vous avez quelques retours. Quel constat tu fais, toi, sur, je ne sais pas, les évolutions? Est-ce que les profils ont changé? Bon, alors, on a vu hein, que vous avez eu des demandes peut-être pressantes d'avoir des questions, des études sur les questions genre. Est-ce que les profils ont changé? Est-ce qu'il y a eu des évolutions particulières? Quelle a été l'évolution que tu as vue, toi, finalement, tout au long de ces 3 promotions?
Finalement, dans le profil des personnes, il y a quand même plutôt une stabilité. En tout cas, il y a certains profils qui sont très récurrents et qui sont stables. Je pense notamment à des personnes qui sont ingénieurs ou issues de la com, ou issues du marketing, ou issues de la logistique, qui sont quand même des secteurs ou des cœurs de métier qui sont particulièrement questionnés par le sens de leur travail. Donc ça, c'est vraiment des personnes qu'on va retrouver dans chaque promo Nouvelle Voie. Là, ce que je trouve intéressant et pour le coup, peut-être inquiétant dans ce que ça signifie sur l'état d'un certain nombre de secteurs, c'est qu'on voit de plus en plus des personnes qui sont issues du travail social, on voit des profs arriver, donc des métiers qui, pour le coup, sont quand même des métiers d'intérêt général, ont un sens, on peut pas dire le contraire, au sens où ils viennent aider des personnes en difficulté, ils viennent transmettre des connaissances qui sont absolument nécessaires pour les personnes, mais finalement... la question qui se pose, c'est plutôt celle de comment l'organisation d'un certain nombre d'institutions rend complètement impossible le fait de vivre, de faire du bon travail, en fait. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui avaient vraiment choisi leur métier, par exemple en devenant enseignant, et qui se disent, bah, en fait, je peux plus continuer. Et donc voilà, ça c'est une tendance quand même de fond qui est là et qui est pas très réjouissante.
Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attend, mais en même temps, c'est révélateur aussi d'une profonde crise du social et crise sociale tout court.
Tout à fait.
Qui a lieu aujourd'hui dans notre société, quoi. Et du coup, justement, c'est toutes ces personnes qui passent par l'Institut, même plus globalement d'ailleurs, par Anciela, où est-ce qu'elles débouchent? C'est-à-dire qu'est-ce que sont plutôt des personnes qui vont justement créer leurs activités en se disant, bah, au moins je vais pouvoir choisir pour qui, pourquoi je le fais, ou des personnes qui se réinsèrent dans des structures qui existent, qui œuvrent sur la transition. Quelles sont un petit peu les grandes orientations?
Je peux peut-être vous donner les chiffres à un an post Nouvelle Voie, parce que je pense que c'est assez illustrant de ce qu'elles deviennent. C'est ce qui concerne la première promotion Nouvelle Voie, donc les 50 premières personnes qui ont été formées. Un an après, on avait 76% qui étaient en activité. 6% qui cherchaient encore du travail, et le reste était plutôt dans un projet de vie perso, donc voyage, reprise d'études, etc. Donc voilà, déjà ça donne un petit peu l'idée de l'insertion en général. Après, sur les 76% en poste, la grosse majorité, donc 52%, travaille en tant que salarié dans des structures très engagées en faveur de la transition écologique et solidaire. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment changé de secteur pour s'insérer dans ces associations et ces entreprises qui sont aujourd'hui en fort développement. Ensuite, on a 10% qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la création de nouvelles associations, de nouvelles entreprises, ou en devenant freelance indépendant. Et on a 14% qui sont restés dans leur entreprise d'origine. La plupart du temps, c'était une volonté dès le départ, c'est-à-dire les personnes avaient fait Nouvelle Voie plutôt pour essayer de faire bouger leur entreprise de l'intérieur. Voilà les chiffres. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même la grande majorité des personnes vont plutôt faire le choix au terme d'un an de s'insérer professionnellement dans ce que nous, on appelle l'économie de la transition, quoi, dans des structures qui ont dans leur raison d'être ces questions d'écologie et de solidarité, et qui essayent au quotidien de proposer des solutions et des alternatives.
Ouais, clairement. Mais du coup, vous observez aussi de votre côté un besoin peut-être croissant de la part de ces entreprises de recruter des gens, d'avoir... Est-ce que vous proposez aussi au sein de Nouvelle Voie des missions des stages, en fait, que les apprenants apprenantes peuvent faire. Est-ce que tu observes, toi, plus justement une demande croissante de la part des entreprises engagées? Est-ce que c'est plutôt stable, mais qu'on en parle davantage aujourd'hui?
Non, je pense que c'est vraiment ce que nous, on appelle l'économie de la transition. Donc, toutes ces associations et ces entreprises qui ont dans leur raison d'être les enjeux d'écologie et de solidarité, c'est vraiment une économie qui est en plein boom. Dans ce qui nous a amené à créer Nouvelle Voie, jusque-là, j'ai vraiment insisté plutôt sur gérer la motivation des personnes, sur ce qui les met en mouvement. Enfin, ça, c'est le premier constat et c'est la première raison du programme Nouvelle Voie. Mais la deuxième raison, c'est qu'on voyait bien autour de nous qu'un certain nombre d'associations et d'entreprises assez récentes qui avaient été fondées il y a 2, 5, 10 ans connaissaient des processus de développement qui les amenaient à avoir des enjeux assez forts de recrutement. Et donc, c'est aussi pour leur permettre de trouver des bons profils qu'on s'est dit que ça valait la peine de lancer l'Institut. On a fait un certain nombre de temps d'échange avec les dirigeants, dirigeantes de ces structures-là pour comprendre quels étaient leurs besoins et leurs problématiques. Et ce qui ressortait, c'est qu'elles étaient très sollicitées par des personnes qui avaient des expériences professionnelles dans des structures classiques et qui avaient envie de se reconvertir, et que dans l'absolu, elles trouvaient leurs compétences et leurs expériences intéressantes, mais qu'il y avait un enjeu quand même de les acculturer au mode d'organisation spécifique de leur structure et de faire en sorte qu'elles aient une connaissance plus fine des enjeux écologiques et solidaires pour que, je dirais, une bonne intention se transforme en vision, en fait. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui ont été fondamentaux pour nous. Après, en effet, on essaye vraiment de réfléchir au sein de Nouvelles Voies à comment les apprenants peuvent être le plus possible au quotidien en contact avec ces structures de la transition, à la fois pour qu'ils puissent se projeter et que ça les aide à préciser leur aspiration pour la suite, mais aussi pour leur créer tout simplement des opportunités. Et ça passe notamment par des missions que les apprenants peuvent faire pour des associations, entreprises, institutions, des missions, c'est en gros une commande qui est faite par ces structures partenaires et auxquelles vont répondre des apprenants apprenantes. Donc ça peut être faire une étude de faisabilité ou une étude de marché, ça peut être repenser la stratégie de communication, ça peut être organiser un événement, c'est très très diversifié, mais ça permet vraiment la mise en mouvement des personnes.
Oui, c'est intéressant, cette double mise en mouvement des personnes qui veulent agir, changer, mettre le travail au service de la transition, et puis après, voilà, on va expérimenter, tester sur le terrain. C'est intéressant parce que des fois, on peut avoir des envies, tester quelque chose, et puis se tromper, avoir envie de recommencer, ou se révéler aussi, donc je trouve ça chouette, en tout cas, qu'il y ait cet aspect terrain, stage.
Ouais, pour nous, c'était vraiment fondamental, parce que souvent, quand on commence à évoluer professionnellement, on se dit que le premier enjeu, c'est de prendre des temps d'introspection, enfin de vraiment plonger en soi pour définir ses valeurs, ses goûts, etc. Alors ça, je suis d'accord que c'est vraiment une première dimension qui est essentielle. Mais pour moi, si ça ne s'articule pas avec une mise en action à côté, que ce soit en se formant, en agissant comme bénévole ou en vivant des immersions professionnelles, en allant rencontrer des personnes qui sont dans les structures qu'on aurait envie de rejoindre, ça nous met dans la posture d'une machine à laver qui tournerait à vide, en fait. On tourne sur soi, mais sans avoir de matière qui nous permet de soit confirmer ce qu'on pressentait, soit au contraire de venir déconstruire des choses qui sont plutôt de l'ordre des fantasmes. Et donc, ouais, c'est un peu l'épreuve du feu de la réalité, mais qui est vraiment importante.
On valide. Et alors, tu parlais un peu d'introspection. Si tu en fais un petit peu sur toi, c'est quoi, toi, ton rapport au travail? Parce qu'on a parlé du travail pour les autres, pour la transition, mais toi, ton rapport au travail, quel est-il?
Je crois que la première chose, c'est que je pourrais être tentée de dire que j'ai pas de travail. Alors, un peu en provocation, mais en tout cas, si on me demande de quoi est fait ma vie professionnelle, c'est une notion en fait avec laquelle je suis pas très à l'aise, parce que je dirais qu'Anciela ou l'Institut, pour moi, c'est avant tout des espaces d'engagement. Et finalement, si je suis devenue permanente, donc salariée de ces structures-là, c'était pour me permettre de vivre entièrement un engagement qui a d'abord été bénévole. Donc, je dirais que j'ai un rapport quand même assez particulier à cet endroit-là de ma vie, qui, par ailleurs, est un espace où j'ai créé des relations très fortes, où je vis des amitiés qui me nourrissent beaucoup. Donc, en tout cas, j'ai du mal à faire la part des choses entre ce qui ferait partie de mon travail, d'une vie professionnelle, et d'un autre côté de ce qui ferait partie d'une vie personnelle. Pour autant, y a des choses quand même, j'identifie quand même que dans ce que je fais au quotidien, y a beaucoup de choses qui se rapportent à ce travail, mais en tout cas, j'ai la chance de pas trop le percevoir en tant que tel, ou en tout cas de toujours garder bien en tête comment ça contribue plus à ce que moi je vis comme une mission ou presque une vocation.
Mais c'est intéressant, c'est cette intégration en fait entre vie pro et vie perso qu'on peut ressentir effectivement dans un cas comme le tien. À ce sujet-là, Donc tu es une jeune maman désormais. Comment est-ce que tu arrives à concilier justement vie pro et vie perso, même si voilà le travail tu le perçois d'une manière particulière. Comment tu concilies quand même ces temps de vie?
Je dirais que ça a été en tout cas une réflexion de long cours, enfin au sens où cette envie de devenir maman, elle date pas d'hier pour moi. Pendant plusieurs années, ça semblait quand même assez difficilement envisageable, au sens où j'avais un engagement d'abord à Antilla et ensuite à Antilla ou au sein de l'institut qui me prenait énormément de temps, d'énergie, et c'était pas très facile de voir comment à côté pouvait se déployer une vie familiale. Et donc petit à petit on a vraiment essayé de travailler à ça pour que ce soit possible, et donc ça l'est devenu. Donc c'était déjà une première grande réussite de se dire à un moment donné que c'était devenu une option. Ensuite, sur comment je le vis aujourd'hui, maintenant que mon fils est là, il y a deux choses qui me viennent. La première chose, c'est que je crois que il y a pas beaucoup d'expériences de vie qui m'auraient, je dirais, à ce point donné envie ou motivé à contenir davantage ses engagements. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que je me disais, Fanny, quand même, faudrait que tu lèves le pied. Des fois, c'est important de vivre autre chose. Mais à chaque fois, au moment de faire le choix, je me disais, mais quand même, ça a du sens, cet accompagnement. Cette réunion. Là, il y a quelque chose qui a suffisamment de valeur à côté pour que je me dise, il est 17h30, c'est l'heure, il faut aller chercher chez la nounou. Et donc, ça, c'est vraiment une expérience pour moi qui est très forte, de me dire, je réussis à contenir davantage mes engagements parce qu'il y a autre chose qui a peut-être encore plus de valeur que j'ai envie de vivre avec un petit bébé qui compte sur moi et qui, par ailleurs, renouvelle quand même le sens que je mets dans mes engagements. Enfin, quand on est engagé en faveur de la transition, c'est aussi parce qu'on a envie de transmettre un monde qui soit quand même plus désirable. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que j'ai quand même vraiment la chance, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, d'être dans des milieux où je peux venir avec mon bébé. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui change tout. Si j'ai une réunion, que ce soit à Antilla ou au sein de l'institut, et que mon fils n'est pas gardé, je peux venir avec lui et tout le monde l'accueille et tout le monde considère que les enfants font partie de la société. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose qui, je pense, joue beaucoup dans le fait que je peux vivre les différentes dimensions de ma vie. Et je me dis souvent que si les enfants étaient davantage acceptés et accueillis dans des endroits, ça changerait beaucoup de choses. Et pour moi, ça, c'est vraiment écoféministe de penser ça aussi.
Il y a des grosses réflexions à avoir là-dessus sur comment on aménage aussi les espaces de vie et de travail pour faciliter tout ça et justement que tout soit mieux intégré et plus simple en fait, plus serein, plus calme.
Complètement.
Une petite dernière question qu'on aime bien poser en fin d'épisode pour inspirer peut-être les personnes qui nous écoutent, si tu as des ressources, quelles qu'elles soient, qui pourraient, soit qui t'ont, toi, marqué, accompagné, touché, bouleversé ou autre, et ou que tu es OK de partager pour que ça serve à d'autres.
Moi, je pense que de manière générale, ce qui me nourrit beaucoup, c'est d'écouter les personnes et leur parcours, enfin, ce qui les a amenés à se mettre en mouvement, ce qui les a amenés à faire des choix. Donc, c'est vrai que la première ressource pour moi au quotidien, c'est toutes ces personnes que je côtoie, que j'accompagne et qui justement me partagent des bouts de vie et que j'ai la chance de pouvoir accompagner dedans. Mais après, si je devais donner une ressource plus labellisée, moi j'aime beaucoup écouter une émission sur France Culture qui s'appelle « À voix nue ». Qu'on peut retrouver en podcast et où justement on suit pendant 5 épisodes des personnes, ça peut être des hommes et des femmes politiques ou de lettres ou des scientifiques, mais qui reviennent depuis leur enfance jusqu'à leur âge adulte et leur réalisation sur tout le chemin qui a été passé. Et je trouve que c'est souvent extrêmement enthousiasmant pour moi de comprendre en fait ce qui préside vraiment aux prises de décision des personnes. Et souvent, ça fait écho et ça me donne envie de vraiment persévérer dans mon chemin de vie.
Bah, merci pour cette recommandation. Je ne connais pas cette émission, donc j'irai la découvrir. Et puis surtout, merci à toi pour ce temps d'échange d'avoir pris du temps pour discuter un petit peu avec nous. C'était fort intéressant et j'espère que ça donnera des envies. Peut-être que ça permettra à des personnes de se mettre en mouvement également en faveur de la transition. Donc merci beaucoup, Fanny.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.